במגזין גלנטורג'ים. Bienvenue au magazine des Nations Unies. Vous avez certainement suivi cette actualité au courant de cette semaine. Le président de la CENI accuse un ancien fonctionnaire onusien d'avoir induit le cardinal Monsengo en erreur en lui communiquant de faux résultats sur les élections de novembre dernier. Dans quelques instants, vous suivrez la réaction de la MONUSCO par son porte-parole. Du 2 au 4 juillet dernier, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, le Programme national de lutte contre l'oncocercose a organisé la revue annuelle des activités sur le traitement à l'ivermectine sous directive communautaire. Nous en parlerons en long et en large dans notre rubrique décryptage. Et puis, sachez que la peste des petits ruminants s'amplifie et s'attaque à d'autres provinces de la RDC. La FAO lance un SOS face à cette situation, sans représentant Djerga Gueye qui tire la sonnette d'alarme et l'invité de notre magazine. Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine. Bonjour et merci de nous rester fidèles. La conférence de presse des Nations Unies, tenue ce mercredi, a suscité plusieurs questions de la part des journalistes présents. Parmi ces questions, celles relatives aux propos du président de la CENI, accusant un ancien fonctionnaire onusien d'avoir induit le cardinal Monsengo en erreur en lui communiquant de faux résultats sur les élections du 28 novembre 2011. En réponse, la MONUSCO a précisé que la mission onusienne n'a jamais fait le monitoring des élections en République démocratique du Congo. Manoje Mounoubaï, porte-parole de la mission, pense que le pasteur Ngoïmoulunda est un homme de Dieu et en tant que tel, il est autorisé à dire la vérité, mais parfois l'homme peut aussi faillir. Il a également précisé qu'un email à titre privé d'un seul individu ne peut pas engager toute la mission. Je vous propose d'écouter ces propos de Manoje Mounoubaï.
Nous connaissons tous les conditions dans lesquelles les élections se sont tenues ici. La MONUSCO s'est cantonnée exclusivement dans le rôle que lui a confié le Conseil de sécurité, c'est-à-dire un rôle de soutien technique et logistique. Nous n'avons joué aucun rôle dans la compilation des votes et nous n'avons jamais donné de résultats au niveau de la MONUSCO. On nous parle d'un fonctionnaire des Nations Unies qui aurait ou qui a envoyé un mail qui aurait induit Monseigneur Monsengo en erreur. C'est un mail personnel envoyé par une personne qui travaille à la MONUSCO et d'ailleurs, un, qui n'est plus à la MONUSCO, deux, qui ne travaille pas à la division électorale, trois, qui ne joue aucun rôle, ni de près, ni de loin, dans le processus électoral ou même dans le soutien que la MONUSCO apporte au processus électoral. Donc, je le répète, et comme ça a été dit, c'est une personne qui travaille à la MONUSCO qui a envoyé un mail personnel. Ce n'est pas un document de la MONUSCO, ce n'est pas un document officiel. Soyons donc très clairs là-dessus.
En parlant toujours des élections de novembre dernier, le porte-parole de la MONUSCO, Manoje Mounoubaï, a également relevé que les ONG nationales et internationales, les observateurs internationaux, voire le chef de l'État, avaient reconnu un certain nombre d'irrégularités ayant émaillé l'élection présidentielle 2011. Chacun devrait tirer les leçons pour les élections à venir. Suivons.
Maintenant, on veut se baser là-dessus pour commencer à justifier, je dirais, un certain nombre de lacunes qui ont entraîné un certain nombre aussi de mouvements après les élections que nous avons tous connues ici. Je le répète, la MONUSCO ne s'est jamais prononcée concernant les différents chiffres qui ont été avancés ni sur le processus électoral. Maintenant, connaissez le nombre d'organisations et de personnes qui ont porté des jugements sur le processus électoral. La société civile congolaise, les organisations non gouvernementales congolaises, les pays qui ont envoyé des observateurs, des certaines ONG internationales ont porté des jugements sur le processus électoral. Je dirais même que lors de la conférence qu'il a donnée après les élections, le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y a eu certains errements dans le processus électoral. Je pense que là où nous sommes aujourd'hui, nous devons tirer les leçons de ce qui a été et de ce qui n'a pas été, puisque nous avons encore des élections à venir.
Ces propos de Manuel de Mounoubaï ont été recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, le Programme national de lutte contre l'onchocercose a organisé du 2 au 4 juillet dernier la revue annuelle des activités du traitement à l'ivermectine sous directive communautaire TIDT en sigle. L'objet de la mission était notamment d'évaluer le niveau de mise en œuvre du TIDC en 2011, programmer la distribution en 2012 dans les 40 000 communautés éligibles. Et tout de suite, avec le conseiller technique du programme OMS en charge de l'onchocercose et des autres maladies tropicales négligées qui se trouvent dans ce studio, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le traitement à l'ivermectine sous directive communautaire. Docteur Diallo, dites-nous directement, c'est quoi l'ivermectine et comment l'utilise-t-on?
Merci beaucoup pour la parole et pour l'invitation. L'ivermectine est un médicament microfilaricide, c'est-à-dire qui tue des microfilaires et qui est utilisé dans la lutte contre les filaires, dont l'onchocercose. C'est un médicament qui est dosé à 3 mg, qui est offert gratuitement par la firme mère au pays où il y a l'onchocercose en endémicité, aussi longtemps que cela sera nécessaire. La RDC, comme beaucoup d'autres pays africains, je vous informe qu'il y a environ 23 pays où l'onchocercose sévit toute l'année, et ce médicament est utilisé par voie orale pour les personnes âgées de 5 ans et plus. Il se donne par mesure de la taille, mais il peut se donner aussi par mesure du poids, à raison de 150 microgrammes par kilo grand poids corporel. Mais si c'est sur la taille, et c'est ce qui est plus commode pour les communautés où on ne peut pas donner une balance dans chacune des 40 000 communautés dont vous avez parlé, donc on utilise la taille et on forme donc des agents communautaires à l'utilisation de ce médicament pour les personnes en fonction de leur taille. Et l'onchocercose a deux types de parasites. Vous avez le parasite adulte, ce qu'on appelle macrophilaire, et les microfilaires, donc les petits vers que ce parasite adulte donne. Et ce médicament tue les petits vers. Et tous les petits vers qui auront été libérés par les vers adultes. Voilà comment donc se donne ce médicament. Il est offert à travers un groupe de donation qu'on appelle le programme de donation du médecin. Parce que le médicament est offert gratuitement par la firme, mais il coûte quelque chose.
En quelques mots, vous pouvez nous rappeler, c'est quoi l'onchocercose?
L'onchocercose est une maladie parasitaire. C'est une parasitose de la peau et des yeux qui est due à un ver filaire qu'on appelle Onchocerca volvulus. Et ce ver parasite se loge dans la peau, dans une partie de la peau qu'on appelle le derme. Cette maladie ne tue pas par elle-même, mais elle entraîne un handicap majeur, la cécité. Et c'est une cécité irréversible.
Vous dites traitement à l'ivermectine sous directive communautaire. Pourquoi sous directive communautaire?
Sous directive communautaire parce que les caractéristiques du médicament font qu'on peut laisser ce médicament à la disposition de la communauté, sans surveillance médicale, contrairement à d'autres médicaments où pour l'administration il faut la stricte surveillance médicale. Ici, c'est un médicament presque inoffensif sur le plan humain et qui peut être laissé à la portée des communautés. Donc, on demande aux communautés de s'organiser et de faire ce qu'on appelle le dénombrement de la population, famille par famille, et de décider quand est-ce qu'ils peuvent faire le traitement pour que toutes les personnes éligibles, donc toutes les personnes âgées de 5 ans et plus, dans les communautés qui ont été déjà ciblées, puissent prendre le médicament. C'est pour cela qu'on parle de sous-directive communautaire.
Et l'ivermectine, d'après vous, n'est pas nocif.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des effets secondaires?
Ça peut survenir. Des effets secondaires sont possibles. Il y a deux ordres d'effets secondaires. Vous savez, il peut avoir des effets secondaires mineurs. Quand l'onchocercose est seul dans l'organisme de la personne, lorsque la personne héberge des millions et des millions de microfilaires, on prend l'ivermectine. Cette ivermectine est très efficace à 95-99% à tuer les microfilaires. Et donc, la lise massive de ces microfilaires peut entraîner soit des gonflements ou alors des vertiges, parfois même des maux de tête ou alors des douleurs abdominales. Mais c'est passager, c'est dans les 72 heures lorsque ces signes sont dus à la prise du microfilaire. Mais lorsque la maladie est co-endémique avec une autre maladie qu'on appelle la loase, une autre parasitose, cette filariose aussi est sensible à l'ivermectine. Mais elle, le site d'élection de ce parasite, ce n'est pas au niveau de la peau, c'est dans le sang. Donc, après la prise de l'ivermectine, on peut avoir des effets secondaires qu'on a qualifiés des effets secondaires graves, c'est-à-dire qui peuvent entraîner ce qu'on appelle un coma chez certaines personnes. Mais je voudrais préciser que la cartographie de ces maladies a été complètement faite dans l'ensemble du territoire de la RDC. On connaît où se trouve, dans chaque communauté, où se trouve l'onchocercose et où se trouve la loase et où se trouvent les deux associés. Dans quelle communauté il y a la présence des deux maladies chez les mêmes populations.
Dans quelle communauté, par exemple, ici en RDC?
Nous avons des populations de l'Équateur, en général, et de la province orientale et une partie du Maniema, aussi au Bas-Congo. Nous avons commencé l'administration de ce médicament depuis les années 2001 dans certaines parties du Kasaï oriental. Mais la cartographie qui a indiqué la distribution géographique de cette maladie a permis de savoir exactement dans quelle partie de la RDC on doit prendre des précautions particulières dans le cas de la distribution de masse. Parce qu'on est obligé de mettre en place un mécanisme de surveillance pour dépister à temps les personnes qui seraient sujettes à ces effets secondaires graves pour qu'elles soient référées à des centres de prise en charge où on aura positionné à l'avance des kits de prise en charge adéquats.
Et dans le pays, en RDC, ce traitement remonte à quand?
Le traitement sous directive communautaire remonte justement à 2001. Mais il y a eu des traitements avant 2001 avec l'ivermectine qui étaient administrés par des ONG ou alors par des associations chrétiennes qui distribuaient ici et là selon les lieux d'affectation. Mais la distribution de masse elle-même a commencé pratiquement en 2001.
Et comment se présente cette ivermectine? En comprimé ou en sirop?
Non, c'est en comprimé. C'est un petit comprimé blanc, nacré, sans goût particulier, qui est conditionné à 500 comprimés par flacon.
Et ce traitement, docteur, il est gratuit?
Totalement gratuit pour la population.
Et où le trouver?
Le médicament est importé chaque année par le Programme national de lutte contre l'onchocercose à travers l'OMS. On le trouve dans les centres de santé, mais pour une distribution de masse. Donc, les infirmiers, lorsqu'ils reçoivent, ils doivent envoyer au niveau des communautés. Donc, les distributeurs communautaires viennent au niveau du centre de santé récupérer leur dotation en fonction des besoins qu'ils avaient exprimés.
Merci, docteur.
Je vous en prie.
En presque 5000 patients congolais ont déjà regagné leur milieu d'origine dans le nord de l'Équateur en provenance de la Likwala au Congo-Brazzaville, un retour dans le cadre de l'opération du rapatriement entrepris en avril dernier. Le HCR estime que le rythme de cette opération est encourageant. Un mot sur les développements, 12 millions de dollars américains, c'est le financement d'un programme de 6 projets de soutien à la stabilisation dans les deux Kivu. L'ambassadeur des Pays-Bas en RDC a signé avec le PNUD une lettre d'intention relative à ces projets d'une durée de 2 ans, ou 2012 à juillet 2014. Ce programme sera mené de façon conjointe par le PNUD, la MONUSCO, l'UNICEF, ONU Habitat et quelques ONG internationales. Par ailleurs, un autre contrat, cette fois-ci avec le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS, toujours avec l'ambassade des Pays-Bas pour la réhabilitation de l'axe routier Sake Matiki Walikale au Nord Kivu, coût des travaux 5 millions de dollars américains. Une nouvelle sur la santé, plus de 120 cas de rougeole, dont 36 avec des complications, ont été rapportés dans la deuxième quinzaine du mois de juin dernier dans la zone de santé des Yalimbongo, selon le bureau de l'OMS à Kinshasa. La situation est d'autant plus inquiétante, souligne cette agence onusienne, que cette rentrée est en rupture des stocks de médicaments depuis plusieurs semaines. Enfin, retenez qu'au moins 26 000 actes de naissance ont été remis jeudi dernier dans les 24 communes de Kinshasa aux parents dont les enfants étaient enregistrés en juin dernier à l'état civil. Cette opération faite à domicile a été organisée par la division urbaine du ministère de l'Intérieur avec l'appui de l'UNICEF. Objectif, améliorer le taux d'enregistrement des enfants à l'état civil. Merci de rester avec nous pour écouter ce dont va nous parler notre invité du jour.
Magazine de la Tanzanie, l'invité.
Après avoir été signalé dans le territoire de Massimanimba, dans le Bandundu et dans quelques contrées de l'Équateur en avril dernier, la peste de PC ruminant s'amplifie et gagne d'autres provinces du pays. À ce jour, au moins 80 000 bêtes ont été décimées. La situation est grave, selon la FAO RDC. Son représentant, Ndiaga Gueye, tire la sonnette d'alarme et invite le gouvernement congolais ainsi que tous ses partenaires à se mobiliser pour des actions urgentes afin d'arrêter l'avancée de cette maladie dont l'impact négatif est certain sur le plan socio-économique. Il le dit dans cet entretien avec Honoré Mitter.
Monsieur Ndiaga Gueye, bonjour.
Bonjour.
En avril dernier, la FAO RDC avait dépêché une mission d'experts à Massimanimba, c'est dans la province de Bandundu, à la suite de l'instruction de la peste de petits ruminants. À l'issue de la mission, la maladie a été confirmée et des recommandations ont été faites. à ce jour, trois mois après, quel est le point de la situation?
La situation n'est malheureusement pas assez favorable. La maladie continue encore à s'étendre et nous avons enregistré maintenant plus de 80 000 mortalités, ce qui est énorme dans un pays comme la RDC. C'est essentiellement dans le Bandundu que nous avons enregistré le plus fort taux de mortalité, mais il y en a aussi dans d'autres provinces comme dans le Bas-Congo, dans le Maniema, et il faut malheureusement craindre que ça continue à s'étendre vers d'autres provinces.
D'après vous, quels sont les facteurs qui seraient à la base de cette expansion?
Un des facteurs les plus importants, c'est justement le mouvement de bétail, parce que les paysans pensent qu'en transférant leurs animaux d'une zone infectée vers une zone non infectée, ils se mettent à l'abri, alors que c'est la pire des choses à faire, parce que c'est ce qui contribue à la dissémination de la maladie.
Là, ça va certainement évaluer l'impact social-économique de cette maladie.
L'impact socio-économique de cette maladie, elle s'évalue lui-même de doigts. Dans la plupart de ces contrées, la chèvre ou le mouton constituent la seule et unique source de revenus de la famille. C'est le compte d'épargne. Et puis, en plus, c'est avec la viande de chèvre qu'on satisfait la grande majorité des besoins en protéines d'origine animale des populations. Donc, l'impact, il est évident. 80 000 têtes de bovins qui sont rapidement tuées ou de caprins, c'est beaucoup d'argent. Deux ou trois chèvres pour une famille, c'est presque le revenu annuel qui est tout de suite décimé. Et puis après, ils se retrouvent sans rien du tout.
Donc là, il faut lancer pratiquement un SOS.
Envers le gouvernement pour qu'il s'implique un peu plus. Mais nous nous impliquons déjà. La FAO vient de mettre en place un programme d'urgence à partir de ses propres ressources pour au moins se vacciner 500 000 têtes de bovins et caprins dans les zones qui ne sont pas encore infectées. Nous allons aussi nous investir dans le renforcement des capacités des services vétérinaires officiels pour qu'ils puissent poser le diagnostic le plus rapidement possible. Nous allons aussi nous impliquer dans l'information, la sensibilisation des populations pour éviter la dissémination de la maladie. Et enfin, nous allons aussi travailler en étroite collaboration avec les services qui sont les laboratoires vétérinaires pour le diagnostic. Et nous allons faire une étude plus fine de l'impact économique et social dont on parlait tantôt.
Et cette campagne de vaccination pourrait commencer à quel moment?
Vous savez, malheureusement, les vaccins ne sont pas disponibles en RDC. Il faut donc les commander. Nous avons déjà anticipé en passant les commandes. Nous espérons que dans les semaines à venir, les vaccins seront disponibles ici. Du coup, il nous faudra bien évidemment mettre en place aussi une chaîne de froid pour que les vaccins ne se détériorent pas. Et puis, nous allons travailler avec donc les services vétérinaires du gouvernement pour procéder à la vaccination. Mais je pense que c'est une question de jours, de semaines. Très prochainement, on va commencer.
Oui, mais cette commande de vaccins, c'est par rapport à la situation de Massamaïnga maintenant que le mal s'intensifie, s'amplifie.
Bon, le mal s'intensifie, s'amplifie, c'est vrai, nous le regrettons tous. Mais comme je l'ai dit, nous allons d'abord nous inscrire dans un programme d'urgence pour limiter au maximum les dégâts. Mais après, il faudra qu'on s'inscrive dans le long terme. Parce que une maladie comme telle, il faut un plan de surveillance épidémiologique, des campagnes de prophylaxie, et ça doit s'inscrire dans la durée et dans la durabilité. Pour qu'à un moment ou à un autre, on arrive peut-être, pourquoi pas, à éliminer complètement la maladie dans le territoire congolais, ce qui est possible, parce que d'autres pays l'ont fait avant notre pays, pourquoi pas nous.
Est-ce que vous avez quand même un message particulier au gouvernement?
Le message particulier au gouvernement, c'est qu'ils comprennent qu'en tout cas, nous sommes là pour accompagner, mais forcément, l'État devra y mettre du sien aussi. Ça ne peut pas être l'affaire seulement des partenaires techniques ou financiers. Ça peut et ça doit être aussi l'affaire du gouvernement, parce que l'élevage de caprin et ovin, c'est extrêmement important dans le pays. Forcément, le gouvernement doit y mettre du sien aussi. Qui parmi nous ici en RDC ne pense pas à manger sa viande de chèvre le soir bien grillée? Alors, si les chèvres sont décimées, qu'est-ce qu'on va faire?
C'est la question à laquelle nous devons tous chercher à trouver une réponse. Une réponse urgente, une réponse très urgente qui implique le gouvernement, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers. La chèvre, c'est souvent le compte d'épargne, c'est le compte bancaire, c'est ça qui nourrit la population congolaise, aussi bien en milieu rural que en milieu urbain. Monsieur Ndiagagé, merci.
Merci à vous aussi.
La nouvelle en province de cette semaine nous mène au Sud Kivu où l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en RDC, Robert Van Engden, a inauguré et remis au gouvernement congolais deux camps militaires lundi dernier à Bukavu. La construction de ces deux camps, Sayo et Nyamunyuni, a été financée par le Pays-Bas à hauteur de près de 11 millions de dollars américains. Les travaux, eux, ont été assurés par l'OIM. Kadi Azouba nous en dit davantage.
Ces deux camps militaires, neuf, peuvent accueillir près de 1400 officiers, soldats et fardissiers, ainsi que près de 5000 dépendants. Le Pays-Bas a financé ces travaux qui ont été exécutés par OIM dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité dans le but de permettre l'amélioration des conditions de vie des militaires au moment où ils font face à des défis sécuritaires. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense et des anciens combattants, à qui il a été remis officiellement les infrastructures, a informé que les casernements des FARDC est une priorité dans le cadre du plan du gouvernement de la RDC pour les réformes de l'armée. Monsieur Alexandre Louban Tambo, vice-premier ministre et ministre de la Défense, a demandé aux bénéficiaires de prendre bien soin de ces infrastructures.
Il est vrai que ces logements ne sont pas dotés de mobilier. Le ministère de la Défense s'engage à saisir sa hiérarchie pour remédier rapidement à cette situation de manière à ce que toutes les commodités d'occupation soient respectées.
Le vice-premier ministre et ministre de la Défense a indiqué que seront logés dans ces casernes seuls les militaires qui ne se sont pas rendu coupable de crimes. Ainsi, il est demandé au chef d'état-major de donner la liste qui doit passer par la MONUSCO pour vérification. Au Kavu, Kadia Djoba, Radio Okapi.
Je m'appelle Christian Hervé Ngondelihao. Je suis assistant au programme pays FIDA en RDC. Je m'occupe de tous les aspects administratifs, financiers et logistiques. En fait, je suis le point focal des projets financés par FIDA. La logique, c'est que FIDA travaille en partenariat avec le gouvernement congolais et puis finance le gouvernement congolais et puis le gouvernement congolais met en place le projet qui fait exécuter par le gouvernement, bien sûr. Lorsque les projets ont des préoccupations, ils soumettent les préoccupations dans notre bureau et moi je fais les analyses et puis soit je les transmets au gouvernement, également au FIDA, au niveau des sièges qui est à Rome. Et je suis l'homme de lettres, donc j'ai fait la littérature au petit séminaire de Boulogne à l'Équateur. Ça, parce que j'avais une vocation religieuse, je suis allé commencer la philosophie à l'Institut supérieur du Kisangani et Kisangani. Bon, c'est le destin, le plan de Dieu. Aujourd'hui, je me sens très bien, mais je ne dis pas que les prêtres sont malheureux que moi, non. Mais je me sens très bien lorsque je joue avec mes enfants, lorsque je les appelle les amis, ça m'arrange bien. Effectivement, j'ai commencé dans une société étatique. Après ça, je suis allé au FIDA. Au FIDA, mais dans les projets mis en place par le gouvernement, c'est le trapé FIDA qui a été exécuté à l'Équateur. Là, j'étais assistant administratif. J'ai trouvé mieux ailleurs. Je suis allé à l'Invest Formation Congo. Là, j'ai occupé la fonction de formateur. Quand le projet a été fini, j'ai postulé aussi à ces trois, ce qui a été ouvert au niveau du FIDA. Donc, ça fait une année déjà que je suis officiellement FIDA, mais je comprenais déjà la logique du FIDA en travaillant dans le projet qui a été exécuté par le PRAPE. Voilà. J'ai les grands soucis toujours d'être excellent et je me bats pour ça. Voilà. Pour le moment, je me dis que mon travail, ça va me permettre à réaliser mes rêves, à aider également l'Église de Dieu. Ça, j'aime ça beaucoup.
Magazine des Nations Unies, le son des Nations Unies.
Bonjour, je m'appelle Monsieur Aimé Kouchou. je suis cambiste. Ma question est celle-ci. Ces derniers temps, les médias parlent souvent de défections, soit des perditions ou encore des versions des militaires de l'armée. Mais quelle différence y a-t-il entre ces mots? Et comment peut-on expliquer ces défections ou des versions?
Merci, Aimé Koutou. Le colonel Félix Bassé, porte-parole militaire de la MONUSCO, est là et il répond à vos préoccupations.
Oui, j'ai entendu la question de votre auditeur et effectivement, c'est vrai qu'il y a eu une forme de confusion entre défection et désertion. D'abord, la défection, c'est l'action d'abandonner une cause, un parti bien précis, ou alors c'est le fait de ne pas être présent là où on était attendu. Alors que la désertion, c'est quitter un lieu où on était censé être sans autorisation. Alors, donc, il y a une nuance. Il y a une nuance parce qu'effectivement, quand on parle de défection des éléments du M23, c'est des éléments qui faisaient partie d'une cause commune, qui est la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des biens et des personnes, des Congolais de manière très générale. Donc ces gens ont fait défection de l'armée congolaise. Maintenant, le déserteur, c'est celui qui s'absente de son lieu de travail sans autorisation. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Ces déversions, les raisons sont nombreuses et variées. Un militaire peut être déserteur, ne pas se présenter à son lieu de travail pour des raisons aussi bien sociales, des raisons familiales. En tout cas, le commandement n'étant pas au courant de ces desiderata, on ne peut que constater son absence du lieu de travail et à partir de ce moment, la procédure est mise en œuvre, elle court jusqu'à ce que ce militaire est arrêté. Le jour où il est arrêté et ramené au corps, cette procédure cesse et maintenant on lui applique la peine qui est prévue par le règlement militaire en cas de désertion ou en temps de paix ou en temps de guerre.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les détaillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDT. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitaine.
Un premier rendez-vous à retenir dans l'agenda de la semaine qui commence, c'est la clôture mercredi 11 juillet 2012 en Ituri de la formation des éléments de la police technique et scientifique sur les violences sexuelles. Cette formation débutée le 26 juin dernier est dispensée par la police de la MONUSCO. Et puis une mission conjointe du ministère de la Justice et Droits Humains et la section Droits de l'Homme de la MONUSCO est prévue au cours de la semaine du 9 au 13 juillet en province orientale, notamment à Bounia, Dungu, Kisangani. À retenir également, toujours à la MONUSCO, cette fois-ci avec l'unité Outreach qui organise sa première séance d'information avec la société civile congolaise sur le nouveau mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. La rencontre aura lieu le vendredi 13 juillet 2012 de 9h30 à 12h dans la salle de conférence de l'UTEX 2. Fin de ce numéro de votre magazine, une édition coordonnée par Jean-Pierre Elali Ikoko. Honoré Miténé a été au reportage sous la supervision de Nikon Gassamadivi. Mireille Dukasa Mukendi vous l'a présenté. Merci de l'avoir suivi. Thank you.